Sermon 22. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 33. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient tous sauvés. Saints bien-aimés, aujourd'hui, à travers la parole de 1er Épître aux Corinthiens 10, nous examinerons profondément comment ceux qui ont reçu le salut doivent vivre, et pourquoi on peut tomber, même en connaissant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cette parole n'est pas un simple avertissement, mais une parole qui montre clairement le discernement que doivent posséder ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'apôtre Paul mentionne d'abord l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont été baptisés en Moïse, ont mangé le même aliment spirituel et ont bu le même breuvage spirituel. Cela signifie qu'ils étaient dans la grâce du salut de Dieu. Cependant, Paul continue et dit ceci. « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » C'est un avertissement très important. Ce n'est pas parce qu'il y a une expérience extérieure de la foi qu'il s'agit d'une vraie foi. Pourquoi cela est-il arrivé? Ils ont expérimenté l'œuvre de salut que Dieu a accomplie, mais ils n'en connaissaient pas exactement la signification. En d'autres termes, ils ne connaissaient pas la structure du salut. Saints bien-aimés, La même chose se produit exactement aujourd'hui. Même en étant né dans ce monde, en entendant la parole de Dieu dans l'Église et en servant. Si l'on ne comprend pas avec précision la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, on a d'autre choix que d'être détruit. Paul montre l'échec d'Israël de quatre manières. Les péchés d'idolâtrie, d'impudicité, le fait de tenter Dieu et de murmurer. Tout cela n'est pas un simple problème d'action, mais la preuve que le centre de leur cœur n'était pas avec Dieu. Si l'on ne connaît pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, une personne sera inévitablement obsédée par les choses extérieures. La foi est ébranlée selon l'environnement, l'émotion et la situation. Et finalement, on en vient à murmurer et on essaye de retourner au monde. Cependant, une personne qui connaît avec précision et croit en la structure de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est différente. Elle peut savoir que son salut ne dépend pas de sa faiblesse ou de l'environnement dans lequel elle se trouve. La parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est que Jésus a reçu le baptême de Jean, que les péchés du monde ont été transférés sur lui, qu'il a reçu le jugement du péché sur la croix, qu'il est ressuscité des morts et qu'il a accompli notre salut. Parce que celui qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est sauvé du péché, cette foi ne peut plus être ébranlée. Pourtant, Paul dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ». C'est un avertissement donné à une personne qui a la foi en croyant en Jésus sans connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Au moment où l'on pense « je vais bien » ou « je crois bien », cette personne en vient à croire en l'Église qu'elle fréquente ou en sa propre foi. Et à ce moment-là, elle tombe sous l'emprise de Satan, le diable. La vraie foi ne consiste pas à s'appuyer sur son propre cœur, mais elle doit s'appuyer sur la parole de vérité du salut qui a déjà été accomplie. Dans les paroles suivantes, Paul délivre une promesse importante. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Beaucoup de gens acceptent cette parole simplement comme un réconfort. Cependant, une signification évangélique y est contenue. La raison pour laquelle nous pouvons surmonter les épreuves de la foi, qui sont difficiles à supporter pour nous, n'est pas parce que notre volonté est forte. Une personne qui croit au Seigneur, qui a déjà reçu le baptême de Jean, sur qui les péchés du monde ont été transférés, qui est allé à la croix, qui a reçu le jugement de nos péchés à notre place, qui est ressuscité des morts et qui est devenu notre Sauveur, ne s'effondre pas même au milieu des épreuves. Paul parle ensuite à nouveau de l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Les idoles ne signifient pas simplement des images, car il y a beaucoup de choses dans nos cœurs sur lesquelles nous nous appuyons plus que sur Dieu. Une personne qui ne connaît pas la parole de l'Évangile de la nouvelle naissance s'appuiera inévitablement sur d'autres choses plus que sur Dieu. Cependant, une personne qui connaît l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en vient à ne croire qu'en Jésus-Christ et à s'appuyer sur sa parole. Parce que son salut dépend de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur a déjà accompli. De plus, Paul parle de la Sainte Cène, soulignant que nous sommes ceux qui sont unis à Christ. Nous ne sommes pas simplement des gens qui fréquentent l'Église, mais ceux qui sont devenus un avec Jésus-Christ. Nos péchés ont été transférés sur lui par le baptême reçu de Jean, il a reçu le jugement du péché sur la croix, est ressuscité des morts et est devenu notre Sauveur. Par conséquent, Paul résume la norme de vie ainsi. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la vie d'une personne qui croit à l'Évangile. Cette parole n'est pas une règle vous disant ce qu'il faut faire. En tant que personne ayant déjà reçu le salut, cela signifie que le centre de cette vie doit être avec Dieu. Ce n'est plus une vie vécue pour soi-même, mais on est devenu une personne qui marche avec Dieu. Et enfin, Paul dit ceci. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est le fruit de l'Évangile. Une personne qui connaît l'Évangile échappe à l'égocentrisme et en vient à vivre une vie qui sauve les autres. Saint bien-aimé, 1er épître aux Corinthiens 10 nous parle clairement. Ce n'est pas parce que l'on connaît l'Évangile que l'on vit automatiquement de manière juste. Ce n'est que lorsque nous connaissons l'Évangile avec précision et que nous nous tenons sur lui, que nous pouvons vivre une vie inébranlable. Votre foi est-elle peut-être encore ébranlée par l'environnement, changeant selon les émotions et s'effondrant selon les situations? Si c'est le cas, vous devez retourner à nouveau à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par le baptême reçu de Jean, Jésus a déjà porté les péchés du monde, a reçu le jugement de ce péché une fois pour toutes, sur la croix, pour le résoudre, et a accompli notre salut par la résurrection des morts. Celui qui s'accroche à cet évangile n'est ébranlé dans aucune situation. Maintenant, nous devons vivre sur cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais nous appuyer sur la justice de Dieu. Nous devons vivre la vie de celui qui édifie la foi des autres, et non pour notre propre bénéfice. J'espère que cet évangile deviendra le centre de votre vie. Par conséquent, je vous bénis au nom du Seigneur afin que vous ne tombiez dans aucune épreuve et que vous en veniez à vivre une vie dirigée vers Dieu.